Bonsoir. Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, appelle à une mobilisation en faveur de l'assistance humanitaire en RDC. Ce haut fonctionnaire de l'ONU a lancé cet appel samedi dernier après avoir visité des sinistrés de la catastrophe de Calais au sud Kivu et les déplacés du site Lourg-Chagala dans l'ouest de Goma au nord Kivu. Il faut plus de moyens pour répondre aux besoins des communautés en attendant le rétablissement de la paix dans l'est du pays, a estimé Bruno Lemarquis. Il déplore ainsi l'explosion des besoins humanitaires à la suite de la résurgence des conflits armés dans les provinces de l'est de la RDC. Quelle analyse faire de l'appel du coordonnateur humanitaire en RDC? Quelle réponse faut-il pour décompter cette situation? Nous en parlons ce soir avec Bruno Lemarquis, qui est avec nous dans ce studio, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident du système de développement des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires. Bruno Lemarquis, bonsoir.
Bonsoir, les auditeurs de Radio Capi.
Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Jean-Claude Mbambazé, voilà, il est président de la société civile du territoire de Rutshuru en Nord Kivu. Jean-Claude Mbambazé, bonsoir.
Oui, bonsoir Madame Kelly, bonsoir Son Excellence, ainsi que l'autre co-débatteur qui est dans le studio.
À Bukavu, Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur la page Facebook de Radio Capi ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre via notre site internet www.radiocapi.net. Une autre possibilité, c'est de nous suivre via la radio-télévision Lumière sous la 100.0 MHz. Une radio qui émet à Chabunda. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Le coordonnateur humanitaire en RDC appelle à une grande mobilisation pour répondre aux besoins humanitaires dans le pays, tout en saluant tous les financements déjà rendus possibles. Bruno Lemarquis souligne que pour ce mois de juillet, la réponse humanitaire en RDC n'est financée qu'à hauteur de 30%. Il a dit dimanche à Goma, après avoir visité le site des déplacés des guerres de Lourg-Chagala, à l'ouest de la ville, et les sinistrés de la catastrophe de Calais au sud de Kivu. Pour lui, en attendant le rétablissement de la paix dans le pays, il est urgent que ces populations soient assistées. Rosalie Zawadi pour le reportage.
Au Nord Kivu, l'écart de la population est actuellement déplacé. Dans la province voisine de l'Ituri, 35% de la population vit en déplacement. Toutes ces personnes ont des besoins urgents alors que l'enveloppe disponible est insuffisante, déplore le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur de l'action humanitaire, Bruno Lemarquis.
La réponse humanitaire en RDC est financée au mois de juillet à 30%. On parle vraiment de sommes tellement importantes, donc on remercie tous les bailleurs pour toutes les sommes très importantes qu'ils ont déjà dégagées, mais ça ne représente que 30% des besoins de la communauté humanitaire compte tenu de l'étendue des besoins. Encore une fois, je profite pour faire un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire pour essayer de toujours faire plus. Ensuite, comme on dit, l'assistance humanitaire n'est pas la réponse aux problèmes humanitaires. La réponse aux problèmes humanitaires, c'est vraiment les processus de paix, c'est la recherche de solutions pour que les gens puissent rentrer chez eux un jour et se réinstaller chez eux. Mais en attendant, tant que ça, ce n'est pas une réalité, l'aide humanitaire est vraiment essentielle pour que les gens, comme ici à Bushagala, 67 000 personnes qui sont à peu près entièrement dépendantes de cette assistance d'urgence.
Les déplacés de Lourg-Chagala aussi demandent au gouvernement de trouver les moyens de régler au plus vite la situation sécuritaire chez eux. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Capi.
Merci Rosalie Zawadi pour ce reportage. Bruno Lemarquis, je rappelle que vous êtes représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident du système de développement des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires. Ça fait long comme titre, Bruno Lemarquis. Alors, vous avez déclaré qu'il faut plus de moyens pour répondre aux besoins des communautés en attendant le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Le financement pour ce mois de juillet où la réponse humanitaire en RDC n'est financée qu'à hauteur de 30%, ce qui est quand même très faible, vu la situation humanitaire qui se dégrade en RDC. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce faible financement ou cette faible mobilisation?
Alors d'abord, il faut rappeler que la crise humanitaire, comme les auditeurs le savent, est une crise en RDC, une crise des plus sévères au monde. Elle dure depuis très longtemps, une des plus prolongées au monde depuis 25 ans et une des plus négligées au monde. Il y a chaque année un classement des crises négligées qui est fait par une organisation norvégienne qui s'appelle le Conseil norvégien aux réfugiés. Il classe les crises humanitaires dans le monde en fonction de l'attention qu'il leur est apportée. La RDC a été classée la crise la plus négligée au monde en 2021 et elle a été classée deuxième au monde après le Burkina Faso en 2022. Donc ça c'est sévère, prolongé, négligé. La crise humanitaire en RDC s'est dégradée, la situation s'est dégradée la dernière année, donc il y avait déjà des besoins qui étaient très élevés, avec beaucoup de déplacés, les conflits de l'Est, etc. Mais cette situation s'est encore dégradée depuis les 12 derniers mois, à cause de la résurgence de certains conflits, qui ont vraiment entraîné beaucoup de déplacements de population en plus. Au Nord Kivu, il y a eu 1,2 million personnes déplacées additionnelles, du fait de la résurgence du M23, dont 600 000 personnes sont autour de la ville de Goma, par exemple dans le site de Lushagala où j'étais il y a quelques jours. Donc énormément de besoins en plus dans le Nord Kivu. La particularité des déplacés, notamment autour de Goma, c'est qu'ils vivent très peu en famille d'accueil et en communauté hôte, ce qui est le cas de la plupart des déplacés en RDC. Ils vivent dans des familles d'accueil. Ils ne sont pas trop loin de leur communauté, ils vivent en famille d'accueil. Mais là, autour de Goma, comme c'est un milieu semi-urbain, ils vivent vraiment dans des sites de déplacés. Donc ils ont besoin, ils sont extrêmement dépendants de l'aide humanitaire. Et puis ensuite, l'augmentation des besoins vient aussi de la détérioration de la situation en Ituri, du fait du vide sécuritaire qu'il y a eu ces derniers mois. Donc il y a certains groupes armés qui se sont engouffrés, notamment les ADF, les CODECO, les AIR, donc énormément de déplacés additionnels. Voilà. Donc tout ça, ça explique l'augmentation des besoins humanitaires à un très très haut niveau. Pour répondre à ces besoins additionnels et à cette situation très très critique, le système humanitaire mondial a déclaré il y a 3 semaines ce qu'on appelle une intensification au plus haut niveau de la réponse humanitaire.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors le chef des Nations Unies à New York, le chef des Nations Unies pour l'action humanitaire, M. Martin Griffith, a parlé à tous ses collègues et ils ont déclaré ce qui se passe une ou deux fois par an dans le monde, qu'on allait accorder l'attention la plus importante à la RDC pendant les prochains mois. Ça a entraîné l'activation à l'intérieur de 8 agences, des 8 principales agences humanitaires des Nations Unies, de leur propre activation interne. C'est un peu bureaucratique ce que je dis, mais c'est important parce que ça donne à ces agences humanitaires de l'ONU plus de capacités, plus de moyens, plus de personnel pour qu'elles fassent le maximum pour appuyer la crise humanitaire en RDC. Ça c'est une chose, ça va donner plus de visibilité à la crise, plus de plaidoyer, plus de visibilité. Donc ça c'est ce qui est fait du côté des acteurs humanitaires. Important, le ministre est en ligne donc il peut également parler, c'est aussi important que ces efforts soient accompagnés par des efforts du gouvernement. Et ce matin donc nous avons eu par exemple une réunion avec le Premier ministre à ce sujet, les efforts du gouvernement pour appuyer, pour faciliter cette réponse humanitaire. Et puis ensuite, du côté des bailleurs de fonds, puisqu'il faut des ressources supplémentaires, comme vous l'avez bien dit, nous sommes financés à 30%, il faut des ressources supplémentaires. Au niveau des ressources, bien sûr, il y a la compétition d'autres crises dans le monde, des crises importantes. Il y a l'Ukraine, il y a eu le tremblement de terre en Turquie, il y a la crise au Soudan, donc c'est une grosse compétition sur les ressources, d'où la nécessité de vraiment garder la crise de la RDC sur le radar international.
Alors, plusieurs déplacés, à peu près combien aujourd'hui on a RDC dû à ces conflits armés et catastrophes naturelles?
Alors, il y a 6,3 millions de déplacés en RDC actuellement. C'est un chiffre qui fluctue parce qu'il y a des gens qui retournent, il y a des gens qui se déplacent, des nouveaux déplacés, il y a des gens qui se déplacent plusieurs fois, mais on tient compte de tout cela. Donc 6,3 millions de déplacés internes. C'est le plus gros chiffre sur le continent africain. La très 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 grosse majorité de ces déplacés sont dus au conflit. Et la plupart de ces déplacés, bien sûr, sont dans les provinces de l'Est. Il y a également, mais une minorité, des déplacés dus à des désastres. Par exemple, les 7000 familles qui sont actuellement déplacées suite au glissement de terrain de Kalehe.
Alors, vous avez visité lors de votre tournée dans le Kivu quelques sites des déplacés. Quels sont les besoins humanitaires les plus urgents de ces déplacés? Ils ont besoin de quoi?
Alors, comme j'ai dit, les besoins. Alors, si on parle des déplacés autour de Goma, ce ne sont pas les seuls, mais c'est là qu'ils sont énormément nombreux, 600 000. Ils ont besoin d'assistance alimentaire, voilà, puisqu'ils sont vraiment coupés de leur habitat et de leur ferme. Des services, donc des services santé, éducation, d'eau, bien sûr. Il y a la question des violences sexuelles dont on pourra parler. Donc il y a eu une explosion du nombre de violences sexuelles dans les sites de déplacés. Le nombre de violences sexuelles au Nord Kivu a augmenté de 73% entre 2021 et 2022, c'est énorme. Il y a de plus en plus de recours au, appelons-le, le sexe transactionnel, la prostitution, à l'intérieur de ces sites. Donc également un besoin très fort, c'est de recréer des moyens de subsistance à l'intérieur de ces sites, pour que les gens aient des activités, des petits emplois. Ça, c'est aussi un domaine qui n'est pas toujours considéré dans l'aide humanitaire, mais c'est très important que les gens gagnent un peu leur vie pour qu'ils ne soient pas entièrement dépendants de cette aide humanitaire. Intéressant, quand j'étais à Lushagala l'autre jour, mais ce n'est pas la première fois que cette remarque est faite, les représentants des déplacés et les représentants des jeunes, surtout, mentionnent comme une de leurs premières priorités la formation professionnelle. Occupez nos jeunes quand ils sont dans les sites, pour que quand ils sortent de là, ils aient un métier, ils puissent s'occuper. Donc ça, c'est vraiment...
Est-ce que vous avez un programme dans ce sens?
On n'a pas de programme dans ce sens.
Ça revient au gouvernement congolais d'occuper ces déplacés.
Voilà, il faudrait avec l'Institut national de la formation professionnelle voir comment on peut monter des programmes spéciaux puissent être montés dans les sites pour occuper les jeunes, profiter du fait qu'ils soient là, il n'y a pas trop d'activité. Un autre besoin des sites, et là c'est vraiment c'est également le futur du pays qui est en jeu, c'est l'éducation des enfants. Il y a 750 000 enfants qui ne vont pas à l'école en ce moment à cause des situations de déplacement en Ituri et au Nord Kivu, 750 000. Et donc il ne faut pas trop longtemps pour que se crée ce qu'on appelle une génération perdue, c'est-à-dire les enfants qui sont déscolarisés une année, deux années, trois années, c'est très 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 dur de remonter la pente. Donc il faut aussi appuyer le secteur de l'éducation.
On vous garde en ligne, on vous garde avec nous dans ce débat, Bruno Lemarquis, le temps pour nous de donner la parole au ministre Modeste Moutinga, qui est ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Monsieur le ministre, quelle analyse vous faites de l'appel du coordonnateur humanitaire en RDC? Mobilisation en faveur de l'assistance humanitaire en RDC. L'ONU a fait sa part. Qu'est-ce que le gouvernement fait de son côté?
Comme l'a bien souligné monsieur Lemarquis, la situation humanitaire en République démocratique du Congo est plus qu'alarmante. Nous l'avons souligné ce matin au cours du cadre de concertation nationale qui était présidée par le Premier ministre. Nous avons souligné l'importance de trouver des solutions à cette crise, mais aussi nous avons analysé les voies et moyens d'apporter le secours qu'il faut à cette population meurtrie. Le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter. Nous sommes maintenant à plus de 6 300 000 déplacés et nous avons plus ou moins 26 millions de enfants, de femmes et des hommes qui souffrent de la malnutrition. Nous avons également près d'un million d'enfants qui ne vont plus à l'école à la suite de déplacements et aux atrocités de M23. La situation est donc grave, mais le gouvernement n'est pas resté les mains croisées. Le président de la République est revenu sur la question. Au niveau du gouvernement, le Premier ministre avait signé il y a une année un décret créant la Caisse nationale de solidarité et de gestion de catastrophes, une structure appelée à mobiliser des ressources pour revenir au secours de déplacer à temps réel. Et le président de la République vient de signer.
Allô, monsieur le ministre.
Il y a... Oui, oui, il y avait une communication qui est en train de nous déranger. Je disais que le président de la République, à la suite de ce décret, vient de signer une ordonnance nommant les dirigeants, donc le conseil d'administration de cette structure qui est appelée à suivre de près la gestion des catastrophes dans notre pays. Vous savez que cette crise humanitaire chez nous est due particulièrement aux groupes armés, aux atrocités du M23 à l'est de notre pays. Elle est particulièrement aussi due aux catastrophes, aux inondations, aux incendies. La plus meurtrière est celle du territoire de Calais, dans le sud de Kivu. À tout cela, il faut des mesures d'anticipation, il faut des mesures de gestion. Le gouvernement s'y attelle avec une attention particulière.
Alors, une attention particulière, cette crise humanitaire en RDC, on n'en parle pas suffisamment. Monsieur Bruno l'a reconnu dans ce studio. Comment vous vous expliquez cela, monsieur le ministre? Pourquoi on n'en parle pas suffisamment? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Cela a fait l'objet de notre tournée européenne pour relever que cette crise, elle était aussi meurtrière que celle de l'Ukraine, celle du Soudan, du Yémen et d'autres pays, et qu'il fallait que la communauté internationale tourne un regard vers la République démocratique du Congo. Notre effort va continuer vers d'autres donateurs, vers d'autres personnes, d'autres fondations qui peuvent apporter un concours à la résolution des crises humanitaires dans notre pays. Mais le plus important, c'est ce que fait le président de la République. Parce que sans la paix, sans la stabilisation, on ne peut pas résoudre la crise humanitaire. La solution durable est une solution politique qui concerne l'avènement de la paix, la consolidation de la paix, la stabilisation des populations afin de l'amener vers un développement. C'est ce qu'on appelle dans le monde humanitaire l'approche Nexus. Donc, paix, stabilisation, développement. La République démocratique du Congo s'implique avec beaucoup de vigueur dans cette approche pour que demain, si nous retrouvons la paix que nous appelons tous nos voeux, nous puissions appliquer cette approche pour résoudre d'une manière durable la crise humanitaire dans notre pays.
Monsieur le ministre, dans plusieurs sites, dans la partie est de la RDC, les déplacés déplorent l'absence du gouvernement congolais dans ces sites. On voit plus les ONG nationales et internationales. Comment vous expliquez cela?
L'absence, non. Le gouvernement ne peut... Oh là là, il y a encore une communication qui nous dérange. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je refuse. Alors, je disais que la présence du gouvernement dans les sites est notable parce que notre ministère a les divisions provinciales partout. Dans le cadre de la concertation nationale, les ONG, la société civile et l'administration des affaires sociales travaillent de concert pour assister la population. Donc nous sommes bien présents, nous accompagnons les ONG internationales et nationales sur le terrain.
Mais on ne vous voit pas, les déplacés ne vous voient pas, monsieur le ministre.
Les déplacés nous voient régulièrement. Nous avons été deux fois à Calais. Le Premier ministre a été. Nous avons été plusieurs fois à Kanyaruchina. Monsieur le Marquis le sait très bien. Nous avons aidé à la construction d'un nouveau site, Chabougira, comme on venait de vous le signaler tout à l'heure. Nous avons été à Ituri régulièrement pour apporter l'assistance à Djougou. Nous avons été au sud Kivu. Nous avons été à l'Équateur plusieurs fois à cause des inondations. Nous avons été à Kinshasa, vous vous rappelez, avec le glissement de terre à Matadi-Kibala. Nous avons été sur le terrain pour enterrer plus de 169 morts. Donc, nous sommes partout. Nous refusons de faire de la publicité macabre sur les morts, sur les personnes qui souffrent, mais nous faisons tout en collaboration avec d'autres ministères sectoriels pour résoudre les problèmes qui se posent dans les sites de déplacés.
Alors, il y a un autre problème qui se pose dans les sites de déplacés. Bruno Lemarquis l'a souligné tout à l'heure, c'est la formation des jeunes déplacés, une formation professionnelle. Est-ce que vous pensez à ces jeunes, à ces hommes, à ces femmes qui ont envie d'apprendre un métier pour que lorsqu'ils vont quitter ces sites, ils puissent se lancer dans la vie professionnelle et même tout en étant dans ces sites, qu'ils aient une petite occupation qui va leur permettre de gagner un peu d'argent et subvenir à leurs besoins.
Cette tâche a été confiée par le gouvernement au mécanisme de DSS, c'est-à-dire le mécanisme de démobilisation et de réinsertion sociale. Ce mécanisme a la tâche de récupérer les jeunes et d'assurer leur formation, mais ce mécanisme
mais
n'a pas les moyens.
On parle des déplacés, on ne parle pas des combattants, monsieur le ministre.
Quand vous parlez de l'Itourie, vous parlez de Nord Kivu, ce sont les déplacés victimes de guerre. Donc ils sont concernés par ce mécanisme, par cette insertion, par la formation. Ce mécanisme n'a pas encore de moyens suffisants pour s'appeler à cette tâche. Au niveau du gouvernement, dans le cadre de ce mécanisme-là, qu'est-ce qui a été créé? Le président de la République vient d'insister fortement le vendredi dernier pour que ce mécanisme soit doté de moyens suffisants pour accomplir toutes ces tâches d'assistance et des formations professionnelles. Nous pensons que les moyens vont venir, mais nous comptons aussi et surtout sur le concours de nos partenaires de la communauté humanitaire internationale.
Il y a aussi l'éducation des enfants qui sont en danger. Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour aider ces enfants?
Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants en rupture familiale. Il y a beaucoup d'enfants qui sont des orphelins, qui sont dans des sites. Nous avons un programme avec le HCR pour encadrer, assurer une éducation à ces enfants. On l'a fait à Kananga, dans le Kasaï central, à la suite du phénomène de Kamuina Sapu. On le fait à Nitouri. Le Premier ministre venait de demander ce matin que cette belle expérience soit étendue à d'autres personnes. Nous sommes convaincus que le gouvernement y mettra les moyens.
Jean-Claude Mbabazé, vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru. Alors, comment vous analysez, la situation humanitaire en RDC, une situation qui est quand même catastrophique, mais aussi l'appel à une mobilisation en faveur de l'assistance humanitaire en RDC, un appel fait par Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC.
Oui, merci madame. Je voudrais d'abord présenter ma compassion à tous ces personnes-là déplacées, aujourd'hui obligées de vivre la mendicité à cause des différentes guerres que nous avons connues et même d'autres catastrophes. Et pour répondre à votre question, il faut vraiment dire que pour le moment, en tout cas, ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment une désolation qui est indescriptible. Pour prendre le cas des déplacés au Nord Kivu, d'abord, il faut dire que c'est vraiment horrible, parce que pour l'instant, je peux vous dire, madame, quand vous arrivez dans les camps de déplacés, vous avez tendance à pleurer, parce que vous voyez comment des personnes qui sont innocentes, qui devaient aller vivre chez elles en train d'évacuer les occupations, vivre dans des cas où non seulement les conditions sont très 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 chaotiques, où dans le camp il y a moins de toilettes, il y a moins de douches, il n'y a pas d'installation sanitaire. Bref, il faut dire que les conditions dans lesquelles ces déplacés vivent, en tout cas, restent à désirer. Et à cela, il faut aussi ajouter, et surtout, le problème de l'eau. Je peux vous dire, madame, ça fait maintenant presque deux mois qu'à peu près trois sites n'ont pas d'eau au niveau de Kanyaruchinya. Et là, c'est très grave. C'est comme ça qu'il y a même des maladies zidiques qu'on est en train de voir. C'est chaque jour qu'on a dit c'est des morts. Et cela fait à ce qu'on se pose beaucoup de questions en disant est-ce que réellement cette population a été abandonnée à son triste sort ou quoi? Cependant, il faut quand même dire que nous remercions sincèrement le travail qu'ont fait les humanitaires. Nous remercions également le travail qu'a fait le gouvernement, quoique étant vraiment minime par rapport à nos attentes. Je crois que
Bruno le Marquis
a été clair. Bruno le Marquis a été clair, il dit, en tout cas pour le moment, la crise de l'Est est la plus négligée, alors qu'en réalité, ce serait en tout cas une crise qui devrait, porter l'attention de tout le monde. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de dégâts, mais on se demande comment le monde peut croiser les bras face à la crise du Congo. Ça, c'est vraiment un problème. 30% de la mobilisation, donc vous comprenez que donc 60% est obligé de mourir parce qu'il n'a pas d'assistance. Mais un autre élément très important, c'est quoi? C'est que c'est de la part aussi du gouvernement. Il est vrai que le gouvernement a quand même fourni un effort considérable. Mais, en tout cas, avoir les besoins qui sont dans le camp, on a posé des questions entre les humanitaires et les gouvernements qui accompagnent l'autre. Est-ce que c'est le gouvernement qui devait accompagner les humanitaires ou bien les humanitaires devaient venir accompagner les gouvernements? Et nous pensons que le gouvernement a la responsabilité première, d'abord, de venir en aide à ces déplacés, ce sont les enfants du Congo, avant de voir le monde humanitaire. Et surtout que les causes qui ont fait à ce que ces gens se déplacent, en tout cas, on ne voit pas une lueur de mettre fin à cette cause. C'est la guerre que nous connaissons au Nord Kivu. Je vais vous dire, madame, aujourd'hui on parle de Kanyaruchinya, mais il y a des camps, même autour de Goma, on a Bulengo, Bushagala, mais on oublie que dans l'autre partie, notamment Kanyabayonga, il y a aussi un temps de déplacer. On oublie qu'aujourd'hui, il y a 3-4 jours, la M23 a encore attaqué beaucoup de localités dans Bukombe partout et qui a déplacé des localités de Siza, de Rurere, de Bukombo, Birambizo, Machango, qui sont encore déplacées aujourd'hui, qui sont en train d'errer sans aucune assistance, madame. Et que donc, nous pensons que cette mobilisation, elle est la bienvenue, mais nous pensons qu'on doit aller au-delà, surtout venir en aide quand les gens seront encore en vie. Donc ça ne sert à rien de venir aider les gens quand ils seront plus encore en vie. Mais également, les gouvernements devaient aussi mettre vraiment un regard particulier. Je pense que ça c'est vraiment une urgence. On devait peut-être même arrêter certaines dépenses au niveau du gouvernement pour affecter accès des moyens colossaux pour aider ses compatriotes victimes d'une agression que tout le monde connaît. Mais penser qu'on doit quand même le mettre dans le budget normal, c'est quand même aussi quelque chose qui nous inquiète, nous, au niveau de la société civile, nous qui sommes des déplacés, moi je suis déplacé, je peux vous dire que c'est un problème. Je peux vous dire que les familles d'accueil, depuis qu'elles sont à Goma, elles n'ont jamais été assistées. On assiste bien sûr dans le cadre des déplacés, mais ces familles aussi ont besoin de l'assistance. Madame, je peux vous dire, quand vous arrivez là-bas, vous trouvez des enfants, donc c'est les vagabondages sexuels, c'est vraiment un monde qui n'a pas de nom, et dans l'avenir, on ne sait pas quel est vraiment ce Congo qu'on est en train de préparer, mais également, je veux aussi insister sur l'éradication de la cause. Je crois que c'est mieux de mobiliser de l'argent pour venir aider ceux qui sont en difficulté. Nous remercions en tout cas les humanitaires, nous remercions le gouvernement. Mais pour nous qui sommes des déplacés, nous pensons qu'on n'est pas habitué à la mendicité. Là,
population du Nord Kivu, c'est une population courageuse qui travaille, qui se prend en charge. Et aujourd'hui, quand on est dans ces conditions-là, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord, et nous pensons l'aide la plus essentielle, l'aide la plus nécessaire qu'on peut nous donner, c'est de mettre fin à cette guerre dont on connaît les auteurs et même les financiers de cette guerre, qu'on mette fin à ça et qu'on nous permette de rentrer chez nous parce qu'on n'est pas habitué à la mendicité.
Merci Jean-Claude Bambazé. On va ouvrir le standard pour prendre ces auditeurs qui sont nombreux à appeler pour aussi donner leur point de vue et poser des questions aux invités de ce soir. On va se rendre à Bukavu, au sud Kivu. Pour écouter cet auditeur, ça sera pour vous, Monsieur Bruno Lemarquis.
Robert Bahome de Bukavu, au sud Kivu. L'appel du coordonnateur humanitaire en RDC est fondé. Autant on aura des conflits et des catastrophes dans ces pays, autant ces dernières nécessitera d'être dans des besoins humanitaires. Néanmoins, pour décanter cette situation, l'ONU et le gouvernement congolais devraient chercher à s'attaquer aux véritables causes des guerres et des conflits armés en RDC, plutôt que de s'attaquer à leurs conséquences ou effets. L'ONU et le gouvernement congolais en sont bien capables. À cet effet, il leur suffit d'appliquer une certaine dose de volonté politique chacun à son niveau.
Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Lemarquis?
Alors moi j'ai coutume de dire que, parce qu'il ne faut pas confondre les responsabilités, l'aide humanitaire, comme ça a déjà été dit, je pense de nombreuses fois, l'aide humanitaire elle est indispensable pour les personnes qui souffrent. Par exemple, tous ces millions de déplacés. Ils ont besoin, surtout ceux qui vivent directement dans des sites qui ne sont pas dans des communautés, tu vois. Ils ont besoin de cette aide humanitaire pour survivre, mais elle n'est absolument pas la solution à la crise humanitaire. Voilà, c'est un sparadrap, c'est un pansement. L'aide humanitaire n'est pas la solution aux problèmes humanitaires. Il faut régler les problèmes là où ils se trouvent. Donc il y a d'une part répondre aux symptômes, mais surtout il faut s'attaquer aux causes.
Les justement, causes, c'est ce que l'auditeur dit, voilà. Il faut s'attaquer aux causes.
Alors les causes, moi j'ai uniquement 1 an et 3 mois en RDC, je suis comme un bébé en RDC, j'apprends tous les jours. J'ai l'impression que de nombreuses causes de conflits en RDC, parce qu'il y a les conflits avec un grand C, il y a les conflits avec un petit C. De nombreuses causes viennent des problèmes fonciers, coutumiers. Énormément de conflits en RDC viennent de là. Ensuite, il y a toute la question fondamentale pour la RDC, parce qu'en fait il s'agit de ça, c'est l'exploitation licite ou illicite des ressources naturelles, que ce soit les ressources minières ou les ressources forestières, etc. Ça, c'est le nœud du problème. Ensuite, il y a la question, par exemple, des flux financiers illicites. Où va l'argent? Donc voilà, ça c'est les causes profondes que moi j'appelle les nœuds gordiens. Régulièrement, je parle des nœuds gordiens, c'est-à-dire ce sac de nœuds qui se trouve tout au fond, les causes des causes. Tant qu'on ne s'attaque pas et qu'on ne détricote pas ces nœuds gordiens, les conflits ou les déficits de développement, etc., qui entraînent des besoins chroniques, vont continuer. Donc c'est vraiment important
qu'avec la volonté politique... Qui devrait s'attaquer à ces causes?
Bon, il y a des responsabilités à tous les niveaux. La principale, et surtout... Dans la situation de la RDC, comme on le sait très bien, il y a des causes qui sont à l'intérieur des frontières de la RDC. Donc là, il y a la primauté de la principale responsabilité, ce sont bientôt les autorités publiques, la volonté politique nationale, les autorités publiques pour s'attaquer à ces causes. Mais il y a aussi, comme on le sait, des phénomènes qui sont transfrontaliers en RDC. Certains des phénomènes traversent les frontières. Soit dans les voisins immédiats, soit beaucoup plus loin. Donc c'est une situation complexe qui a besoin parfois de réponses internationales pour s'attaquer. Si on prend par exemple la traçabilité des métaux, la traçabilité des minerais, ça c'est pas une chose qui concerne uniquement la RDC, ce sont des solutions internationales. Si on parle des flux financiers illicites, là c'est bien au-delà des frontières de la RDC. Donc il faut aussi, au-delà des solutions nationales qui dépendent de la volonté nationale, il faut aussi une volonté internationale. Il faut la mise en œuvre d'instruments internationaux, y compris des instruments contraignants, pour que certaines de ces causes, d'où sortent la plupart des conflits de la RDC.
Monsieur le ministre, on lance une question pour vous qui nous vient de Kisangani.
C'est de Gracias Coupa depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. En tout cas, le moins que l'on peut se dire, c'est que l'initiative est salutaire. Mais nous nous posons la question de savoir quelles sont les politiques mises en place par le gouvernement, lui qui est censé protéger sa population, mais qu'aujourd'hui, tout un territoire ou bien des territoires sont entre les mains des malveillants et leurs actions n'ont pour conséquence que la perte de vies humaines. Quelles sont les politiques mises en place par les ministres sectoriels pour pouvoir remédier à cette carence, à cette crise? Est-ce là un constat selon lequel il y a absence de l'autorité de l'État au sein de ces territoires? Si c'est le cas, moi je pense que les ministres sectoriels devaient, aux yeux et aussi de tout le monde, déposer sa démission puisqu'il est déficitaire en l'espèce.
Monsieur le ministre, vous avez suivi cet auditeur de Kisangani qui n'a pas été très tendre vis-à-vis de vous.
Mais je comprends l'attitude de mon compatriote de Kisangani. Quand on est en difficulté, quand on vit la guerre, on ne peut qu'adopter cette attitude. Mais je voudrais souligner tout simplement que le gouvernement n'a cessé de chercher des solutions. Le président de la République s'est engagé sur le plan diplomatique à faire voir à la communauté internationale que la souffrance des populations de la République démocratique du Congo, la tentative du Rwanda et de ses complices du M23, le président de la République a été au front diplomatique. Il a donné toute son énergie pour faire comprendre à la communauté internationale que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par le Rwanda. On a mis le temps pour que cette version soit acceptée. Finalement, l'ONU et l'Union européenne et toute la communauté internationale ont fini par comprendre que la République démocratique du Congo était agressée par le Rwanda. Et on cesse de demander au Rwanda d'arrêter et de se retirer de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le plan diplomatique. Ça veut dire que le gouvernement, le président de la République et le premier ministre font le maximum. Mais sur le plan de sécurité elle-même, nous avions trouvé une armée qui n'avait pas les moyens de son action. Le président de la République fait de son mieux pour relancer cette armée, pour donner beaucoup plus de moyens. On est en train de procéder à la formation de nouvelles unités qui seront bien équipées, qui seront tenir le coup au front face aux agresseurs du Rwanda.
Alors, donc, monsieur le ministre, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre. On va revenir sur la question des déplacés. Il y a Roger Pogno, c'est un auditeur qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Capi, qui vous pose une question à vous. Il dit ceci: depuis les débuts de cette année 2023, combien de fois le gouvernement a assisté nos frères de l'Est?
Ben, le gouvernement a été trois fois à Goma. Nous avons été plus de quatre fois à Ituri, nous avons été à Bukavu, en dehors de Kanyarushina, nous avons été en dehors de Calais, nous avons été à Bukavu, nous avons été à Mwenga, à Kamituga, nous avons été à l'équateur Bumba, Bwende, nous avons été un peu partout. Apporter le concours de secours à la population congolaise. Cette action ne peut pas être mesurée en valeur qu'on peut communiquer à cette occasion, mais nous avons été partout. Le gouvernement a assisté la population. Certes, ce n'est pas assez. Plus vous apportez le concours à la population aujourd'hui, demain, les ADF attaquent, il y a de nouveaux déplacés, le Rwanda attaque, vous avez les nouveaux déplacés. Ça n'arrête pas. C'est pour cela que la solution durable est celle d'apporter la paix. Et le président de la République se bat dans la scène de la communauté internationale avec les pays africains et l'ONU pour qu'ensemble on puisse trouver la solution. Rappelez-vous, le mécanisme de Nairobi et de Luanda, tout cela c'est dans le but de trouver la paix. Et la paix, on ne va pas la négocier à tout prix. Nous la recherchons par les moyens légaux.
Alors, Monsieur le Ministre, notre question qui nous vient de Lubumbashi, Serge, qui dit ceci, pour ce mois de juillet, la réponse humanitaire en RDC n'est financée qu'à hauteur de 30% et le gouvernement finance à hauteur de combien de pourcents?
Ici, ce qui a été communiqué par le responsable humanitaire est un résultat d'un plaidoyer fait avec le gouvernement de la République. Nous avons été ensemble en Suisse, nous avons été à Oslo, nous avons été en Suède, nous avons été à Londres, on a été à New York. C'est un effort conjugué, la communauté humanitaire et le gouvernement, pour arriver à ce résultat. Ensuite, ce que le gouvernement fait n'entre pas dans les 30%, c'est le budget de l'État qui dégage les moyens que nous apportons en termes de matériel, en termes de nourriture, en termes de soins de santé.
Alors, il est alloué combien, par exemple, pour les déplacés dans le budget?
Dans le budget, il faut vous dire que pour les catastrophes et tout ce qu'il faut, le gouvernement avait prévu au départ plus de 250 milliards de francs congolais. Mais on est en train de dégager cet argent au fur et à mesure que les catastrophes se produisent. Il y a une ligne de crédit très importante au budget de l'État 2023.
Merci, Monsieur le Ministre. Jean-Claude Babazé, on va prendre cette dernière réaction qui nous vient d'Isangi.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU n'a fait que son travail à travers cet appel des fonds. Néanmoins, la question qui reste à poser est celle de savoir ce que fait le gouvernement congolais pendant ce temps en faveur de ses sinistrés et pour la restauration durable de la paix dans la partie est après autant de mois de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées du pays. Moi, j'estime que le régime ne fait pas vraiment attention aux pleurs de la population. Et cela laisse la porte ouverte aux organisations des Nations Unies à montrer à ces derniers que c'est elle qui est à ses côtés pour partager sa souffrance. Je souhaiterais que l'État lui-même nous montre qu'il n'a pas mis sa propre population dans les oubliettes en s'isant de tout son pouvoir pour sortir son peuple dans cette auberge.
Alors, il aborde un peu dans le même sens que vous, lors de votre première intervention, Jean-Claude Bambazé. Est-ce que vous partagez son avis, hein?
Oui, donc, je partage son avis à moitié, hein, parce qu'il semble dédouaner un peu Nations Unies. Non, les Nations Unies ne doivent pas être dédouanées, parce que quand vous avez suivi ce que venait de dire M. Brino, c'est vrai qu'il a développé la théorie des causes des conflits, mais il n'est pas entré dans les solutions que préconisent les Nations Unies, parce que c'est quand même une grande organisation au niveau du monde. Moi, j'attendais que plutôt Bruno nous dise, voilà, au niveau des Nations Unies, il y a un rapport d'experts des Nations Unies et une structure même des Nations Unies qui a prouvé que le Congo est agressé, ce qui cause à ce qu'il y ait beaucoup de déplacés aujourd'hui. Sur base de ces rapports, nous allons prendre des sanctions contre les agresseurs qui font assez que les gens vivent dans des conditions inhumaines dans le cas des déplacés. Mais cela n'a pas été dit, chose malheureuse, et vraiment c'est un constat que nous déplorons, nous, comme des déplacés. Nous pensons que les Nations Unies devaient prendre des mesures sérieuses, d'autant plus qu'elles ont toutes les données, tous les éléments sur ce qui cause à ce que nous puissions être agressés et que nous puissions vivre dans les camps des déplacés. Mais s'agissant du gouvernement, là aussi il y a un problème, il y a un couac. On doit quand même arrêter de continuer à vanter une diplomatie, mais alors qu'en face, on a des interlocuteurs hypocrites. Parce que depuis qu'on a tenu des réunions, ça a commencé à Nairobi, ça a commencé à Luanda, c'est Bujumbura, c'est un peu partout. Les gens s'engagent, ils ressortent même des grandes décisions, mais qui n'ont jamais été appliquées par, que ce soit les Rwanda, que ce soit par les M23 et même l'Ouganda. Et face à ces refus d'exécuter toutes les décisions prises dans ces grands sommets, qu'a fait le gouvernement? faut-il continuer vraiment à croire que on a en face des gens, il faut continuer avec la diplomatie, alors que les gens en face n'écoutent pas ça. On sent qu'ils sont, ils ont un soutien quelque part. Et pour nous qui souffrons dans ce camp de déplacés, nous sommes fatigués avec les mots dire de diplomatie qui ne produisent pas. Mais nous, nous pensons qu'il est grand temps que le gouvernement et qu'ils prennent ses responsabilités. Nous avons un État, nous soutenons notre gouvernement, nous soutenons les FRDC, et ils doivent en tout cas aller en avant, en découdre avec ces agresseurs, les mettre au tas de nuire, afin de leur permettre de rentrer chez nous, au lieu de rester dans des théories diplomatiques en face des interlocuteurs hypocrites qui ne mettent jamais en exécution toutes les décisions prises pour endiguer ce problème que nous vivons ici. Et que donc, l'auditeur a à moitié raison quand il dit que le gouvernement semble nous avoir abandonné entre les mains de ses agresseurs. Madame, comprenez que jusqu'à présent, on est en train même d'oublier les territoires de Rutshuru et Masisi dans les processus électoral. Et ça, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Nous sommes très déçus. Nous, les populations déplacées, et même les populations qui vivent dans les territoires conquis par la M23, nous commençons à sentir que nous sommes abandonnés entre les mains des lions, entre les mains des agresseurs, par le gouvernement, qui, en tout cas, va avec beaucoup de lenteur dans la recherche des solutions idoines, et qui, au lieu d'attaquer la cause en face, cherche à faire des tournures en allant dans des réunions un peu partout et des réunions qui ne produisent absolument rien comme résultat sur le terrain.
En 30 secondes, Jean-Claude Mamazé, ce sera votre conclusion. Quelle réponse faut-il pour décompter cette situation?
La réponse elle est claire. Si ces nations-là acceptent de nous accompagner, si les gouvernements, comme en tout cas on a senti quand même ces besoins-là, les gouvernements doivent s'assumer et prendre des mesures pour en découdre avec ses agresseurs, les battre militairement. Pour nous, c'est ça le souhait. Sinon, continuer à aller dans des discours par-ci, par-là, des négociations, nous continuons à souffrir, c'est nous qui souffrons, ce sont nos enfants qui n'étudient pas, ce sont nos enfants qui sont en train de mourir dans le... C'est les femmes violées. Écoutez, madame, on est vraiment fatigués. On a besoin que le gouvernement termine ces problèmes une fois pour toutes afin que nous puissions rentrer chez nous, vivre comme avant.
Merci Jean-Claude Bambazé, Bruno Lemarquis. On ne sent pas une grande implication des Nations Unies selon Jean-Claude Bambazé que vous avez suivi, qui est d'ailleurs lui-même un déplacé. Comment vous lui répondez?
Bon, par rapport à au point précis qu'il a mentionné, donc les Nations Unies, c'est...
On est dans les solutions. Hein. Il faut décompter cette situation, la crise humanitaire. Qu'est-ce qu'il faut?
Alors, il faut des solutions politiques. Il faut des solutions politiques. Il faut la résolution des conflits avec un grand C. Il faut la résolution des conflits avec un petit C. Donc ça, c'est un travail de diplomatie. À différents niveaux, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui joue un grand rôle. C'est au Conseil de sécurité, par exemple, de revoir le groupe le rapport du groupe d'experts, et à prendre éventuellement des décisions. Il y a le rôle de l'Union africaine. Donc ça, c'est le travail de diplomatie. Ensuite, il y a tout le travail sur les causes profondes. Qui n'est pas forcément directement lié à la question politique. Les questions que j'ai mentionnées, ça, c'est aussi la source de nombreux conflits en RDC. Des conflits plus locaux, des conflits plus communautaires, la question foncière, l'exploitation des ressources, etc. Donc il faut tout ce travail au niveau politique pour trouver la paix, il faut tout ce travail au niveau du développement, il faut avancer l'agenda du développement. Les zones de l'Est, les provinces de l'Est sont des provinces potentiellement très riches, il y a énormément de potentiel économique, donc il faut mettre ce potentiel économique en valeur. Donc ça c'est... Et ensuite, il faut être prêt, une fois que ces solutions politiques auront été trouvées, à appuyer ce que j'appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire il faudra le redéploiement des services de l'État, le redéploiement des forces de sécurité, l'opérationnalisation du PDDRCS, la réforme du secteur de la sécurité, tout ça pour que les gens reprennent confiance que la sécurité est de retour dans leur zone, et ça permettra le retour des déplacés. Et ce retour des déplacés doit être bien planifié, doit être bien appuyé, pour que les gens retournent chez eux. En attendant, il y a beaucoup de gens qui souffrent, comme ça a été dit, beaucoup de personnes souffrent, et donc c'est le travail des humanitaires d'appuyer ces personnes, qui qu'elles soient, et où qu'elles se trouvent. Le travail des humanitaires, selon les principes humanitaires, c'est d'appuyer toutes ces personnes dans le besoin, où qu'elles se trouvent. Merci.
Merci Bruno Le Marquis. Monsieur le ministre Modeste Moutinga, vous avez suivi les réactions des auditeurs, vous avez suivi la société civile de Rutshuru qui est avec nous dans cette émission, qui est en plus un déplacé. On a besoin de sentir l'État, on a besoin de sentir la présence de l'État. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous allez faire pour que ces déplacés ne pensent pas que l'État les a abandonnés?
Je voulais dire que le président de la République, le gouvernement, nous avons le devoir constitutionnel de protéger cette population. Nous avons le devoir constitutionnel de sauvegarder l'intégrité de notre territoire. C'est pour cela que nous jouons sur deux fronts. Nous sommes sur le front diplomatique, nous sommes également sur le front de sécurité avec nos forces armées. De ce côté-là, nous demandons à la population de se tranquilliser parce que notre armée est en train d'être reconstituée, elle est en train d'être dotée des moyens qu'il faut. Et lorsque nous aurons terminé la formation qui est en train d'être faite assez rapidement depuis le 3 décembre dernier, le président de la République avait lancé un appel à la mobilisation générale. Il y a eu des jeunes gens, sont très nombreux, qui se sont fait enrôler dans l'armée. La formation a commencé.
Merci.
On a levé ce que nous avions presque un embargo d'achat d'armes. Cet embargo a été levé. Tous les moyens sont mis en place pour que dans un avenir aussi proche, nous puissions devenir une armée de dissuasion et que nous puissions bouter hors de notre territoire les ennemis qui nous agressent.
Merci, monsieur le ministre. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission. Jean-Claude Fial a été à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Merci à Clément et à Billy qui vous ont aidé ou qui nous ont aidé à passer en direct sur la page Facebook de Radio Okapi. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence. Pense de la paix.
Oh, non.